sommes unis dans la famille, cœur de nous lie toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, cœur de nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun
Camille, sois le bienvenu parmi nous.
Merci.
Sens-toi libre de nous apporter ce que Dieu veut nous dire. Et on va prier pour toi. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous donnes cette occasion d'entendre à nouveau ta parole. Nous demandons de bénir Camille, ton serviteur, afin qu'il puisse nous dire librement ce qu'il veut nous transmettre de ta part. Donne-nous, Seigneur, des cœurs ouverts à la compréhension et à l'écoute de ce message. Nous le bénissons en ton nom. Amen.
Amen. Merci.
Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, ça sort un peu de l'ordinaire puisqu'il s'agit des voleurs de joie. Alors, je ne sais pas si ici, dans la région, vous êtes pris avec ces voleurs de joie. En tout cas, dans le sud de la France, dans la région de Montpellier, eh bien, bien sûr, il y a ces voleurs de joie. Et je vais aller un peu plus loin dans ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Jésus-Christ, eh bien, était un homme de douleur, habitué à la souffrance, nous le savons. Pourtant, il avait une joie profonde qui dépassait tout ce que le monde peut offrir. Et alors qu'il arrivait au terme de sa vie, qu'il était conduit au calvaire pour y être crucifié, il avait dit à ses disciples ces paroles : « Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Jean chapitre 15, verset 11. Et donc, pour ceux qui ont placé leur confiance en Christ, eh bien, nous avons le privilège de connaître d'abondantes joies. Psaume 16, verset 11. Pourtant, peu de chrétiens profitent de ces privilèges. Ceux-ci vivent bien souvent sous un nuage de déception, alors qu'ils pourraient tout simplement marcher sous le soleil de la joie. Nous pouvons ce matin nous poser la question, qu'est-ce qui nous prive de cette joie ? La réponse à cette question se trouve dans une lettre écrite par l'apôtre Paul, alors qu'il était prisonnier à Rome. Et cette lettre, il l'a destinée à ses frères de l'église de Philippe, qu'il avait fondée lors de son deuxième voyage missionnaire. On apprend donc par cette lettre qu'un membre de cette église, Épaphrodite, avait été envoyé à Rome pour lui remettre un don spécial pour l'assister dans ses difficultés. Nous avons cela dans Philippiens chapitre 2, 25 à 30. La lettre qu'il écrit à cette église de Philippe, c'est une lettre de remerciement, mais en fait c'est bien plus que cela, car par le moyen de celle-ci, il désire faire connaître le secret de la joie chrétienne à ses correspondants. Et lorsque nous lisons ces quatre chapitres de cette épître aux Philippiens, nous constatons qu'il est question de la joie et, ou du contentement à 19 reprises. Vous le savez, on appelle cette épître l'épître de la joie. Le plus surprenant dans cette lettre, c'est la position ou la situation dans laquelle Paul se trouvait. En écrivant cette lettre, je dirais qu'il n'avait aucune raison apparente de se réjouir, puisqu'il est en prison et en instance de jugement. Vous savez, petite parenthèse, j'ai été aumônier dans les prisons à La Réunion pendant 17 ans. Je n'ai jamais trouvé un prisonnier se réjouir d'être là-bas dedans, d'être enfermé. Et pourtant, Paul, il est en instance de jugement. Il ne sait pas comment ce jugement allait tourner. Il pouvait aussi bien être acquitté que condamné à mort. Mais malgré cela, en dépit du danger qu'il courait, Paul était dans la joie, était débordant de la joie. Il était en paix. Alors, quel est le secret de cette joie? Ce secret se trouve dans ces mots « esprit » et « pensée ». Ces deux mots sont répétés une quinzaine de fois dans cette épître. Le secret de la joie chrétienne se trouve dans la façon de penser du croyant et dans ses attitudes. Je dirais que notre façon d'envisager la vie détermine notre vie elle-même. Dans cette épître, nous y trouvons les principes d'une psychologie chrétienne solidement appuyée sur la parole de Dieu. Mais il ne faut pas que cela soit seulement une simple méthode d'autosuggestion qui aiderait le lecteur à se convaincre de toute façon tout finit et tout finira par s'arranger. En fait, cet épître explique ce que doit être l'état d'esprit du chrétien dans le but de connaître la joie chrétienne dans un monde, bien sûr, nous le savons, dans un monde sans joie véritable et troublé, où l'on ne trouve que des joies éphémères, superficielles et sans lendemain. Alors j'en viens à mes voleurs. Les voleurs qui ravissent notre joie. Le premier de ces voleurs, eh bien ce sont les circonstances. Si l'on faisait un sondage, la plupart des gens reconnaîtraient qu'ils sont plus facilement contents et détendus, heureux, quand tout va bien, quand il y a du soleil. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, s'il y en a encore ce matin. Quand c'est l'été, les vacances, quand le compte en bancaire est bien fourni, nous devons quand même réaliser qu'en fait très peu de circonstances sont sous notre contrôle. Et nous pouvons imaginer ce matin, si chacun voulait maîtriser ne serait-ce que la météo, ça deviendrait insupportable. Celui qui fait dépendre son bonheur des circonstances risque fort d'être très malheureux la plupart du temps. Byron, un poète britannique, a écrit ceci : les hommes sont le jouet des circonstances. Les hommes sont le jouet des circonstances. Et nous voyons pourtant l'apôtre écrire une lettre débordante de joie alors qu'il se trouve dans les pires circonstances, il est en prison. Voilà, le premier voleur, c'est les circonstances. Le deuxième, eh bien, ce sont les gens. Il nous est tous arrivé de perdre la joie à cause des gens que nous côtoyons, par leur manière d'être, par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font. Est-ce vrai? Je crois qu'il nous faut être honnêtes et reconnaître que nous aussi, eh bien, moi aussi, nous avons rendu les autres malheureux, et bien souvent avec ceux qui nous sont le plus proches. Une parole seulement suffit pour faire perdre la joie à quelqu'un. Une personne vient de vivre un moment intense de joie, elle vient de réussir un concours magnifique, et puis il y a quelqu'un qui arrive et vient lui annoncer un accident d'un être très cher. Vous savez ce qui se produit? La joie, elle disparaît tout d'un coup. Instantanément. Et je crois qu'on pourrait multiplier les exemples. Mais malgré tout, nous devons vivre et côtoyer ces personnes. On ne peut pas s'isoler et vivre cloîtré. Nous sommes faits pour vivre non pas en solitaire, mais solidaires les uns des autres, avec ceux qui nous entourent. N'oublions pas que le Seigneur a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Il est vrai que la lumière peut pâlir et le sel peut perdre sa saveur à cause des autres. Alors, est-il possible, malgré tout, de vivre dans la joie, malgré les gens que nous côtoyons, et même des fois nos plus proches? Le troisième voleur, eh bien, ce sont les choses. Un jour, Abraham Lincoln se promenait avec ses deux garçons qui criaient et se disputaient. « Qu'est-ce qui leur arrive ?» demanda un ami à Lincoln. Il lui répondit, « C'est le problème universel. J'ai trois noix et chacun en veut le deux. » Eh oui, c'est ça, les choses. Quelles voleuses elles peuvent être. Et Jésus même l'a dit, « La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Et nous avons un exemple très concret dans Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Je ne vais pas le lire pour ne pas prendre trop de temps. Mais Jésus, dans le sermon sur la montagne, il a mis ses disciples en garde contre l'accumulation des trésors sur la terre. Ces trésors ne sont pas sûrs, ils ne durent pas et ne satisfont jamais. La plupart des gens croient que la joie et le bonheur dépendent de la fortune. Beaucoup de riches sont morts tristes et malheureux. En fait, les choses peuvent nous priver de la seule joie véritable et durable. Alors j'arrive au pire, le pire des voleurs. Les soucis. Est-ce que vous avez des soucis ce matin? Les soucis, ce sont là les pires voleurs. Une multitude de gens ont perdu la paix et la joie. Ils ont empêché leur propre épanouissement à cause de leurs soucis. Et d'ailleurs, c'est même un fait établi, les soucis ont des conséquences sur la santé physique. La médecine peut agir sur les symptômes, mais ne pourra jamais supprimer la cause. L'inquiétude, c'est un trouble de la vie intérieure. On peut aller chez le pharmacien acheter du sommeil, mais elle ne pourra jamais acheter le repos. Et d'ailleurs, d'après le rapport d'un journal américain, ce n'est plus la dépression qui est l'anxiété, qui est devenue le principal problème de santé mentale aux USA, mais c'est l'inquiétude. En sorte, en fait, que les médicaments contre l'anxiété sont maintenant les plus vendus en pharmacie. Alors, un comprimé ne saurait y remédier. C'est plus profond que cela. Mais j'aimerais revenir à Paul. S'il avait voulu s'inquiéter, les raisons ne lui auraient pas manqué. Il écrit une lettre exubérante et nous dit qu'il ne faut pas se faire de soucis, ne pas s'inquiéter, alors qu'il est toujours en prison. Ces quatre voleurs qui ôtent notre joie sont les circonstances, les gens, les choses et les soucis. Alors, une question se pose, comment pouvons-nous maîtriser ces quatre voleurs de joie et les empêcher de nous dérober ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, en entretenant un état d'esprit adéquat, car si nos façons d'envisager la vie déterminent notre style de vie, notre façon favorisera notre joie ou notre tristesse. Et dans ce chapitre 4, les Philippiens, Paul écrit quatre états d'esprit qui nous procurent la joie en dépit des circonstances, en dépit des gens, des choses, et nous délivrent de nos soucis. Alors j'en viens à ces quatre états d'esprit qui procurent la joie. Eh bien, la première, c'est dans Philippiens chapitre 1er, la résolution. L'épître de Jacques dit ceci, « Un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. » Jacques, chapitre 1er, verset 8. Un proverbe latin dit ceci, « Quand le capitaine ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent n'est le bon. » Bien souvent, nous sommes débordés par les circonstances parce que nous n'entretenons pas une attitude intérieure résolue. Paul exprime cette attitude de consécration totale par ces mots. « Pour moi, vivre c'est Christ et la mort est un gain. » Philippiens chapitre 1, verset 21. Il mentionne dans le premier chapitre les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouve. Il est honnête et réaliste. Mais ces circonstances ne lui ôtent pas sa joie parce qu'il ne vit pas pour jouir des circonstances, mais pour servir le Seigneur. Paul était un homme résolu. D'ailleurs, il dira cette parole, « Je fais une chose. » « Je fais une chose », Philippiens 3, verset 13. C'est-à-dire qu'il ne considère pas les circonstances en elles-mêmes, mais plutôt dans leur relation avec le Seigneur Jésus. Paul n'est pas prisonnier de l'Empire romain, mais il est le prisonnier de Jésus-Christ. Tout est là, la différence. Il ne regarde pas à Christ à travers les circonstances, mais il voit les circonstances à travers Christ, et là, tout est la différence, c'est toute la différence. Et d'ailleurs, Paul acceptait joyeusement les circonstances difficiles parce qu'elles contribuaient à renforcer sa communion avec d'autres croyants, et lui donnait même l'occasion d'amener d'autres gens à la foi. Lorsqu'il était dans sa prison à Rome, eh bien, ça ne l'a pas empêché de témoigner. De prêcher l'Évangile. Alors, quand nous avons un esprit résolu, les circonstances agissent à notre avantage et pas contre nous. Le deuxième état, c'est, dans Philippiens chapitre 2, l'humilité. Et ce chapitre 2 met l'accent sur les gens, et le verset clé est le suivant. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Chapitre 2, verset 3. Et mes amis, bien souvent, la cause principale de notre mésentente avec les autres, c'est généralement le désir d'agir à sa guise et vouloir être le premier. Alors il est évident que si nous passons notre temps à vouloir nous mettre au premier rang, à la première place, si tout le monde veut en faire autant, pourquoi moi? Pourquoi lui et pas moi? Il y aura inévitablement des frictions, des disputes et pour finir même des divisions. Jésus a dit une parole très claire. Celui qui voudra être le premier sera le dernier. Et celui qui sera le dernier sera le premier. Ça, c'est la logique de Dieu. Par contre, le vrai chrétien, celui qui a compris le sens du service, n'attendra pas que les autres le servent. Il servira les autres. Il donnera la priorité au bien des autres avant de satisfaire ses propres désirs. Et dans ce chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, nous avons quatre exemples frappants au sujet de l'humilité. D'ailleurs, ça commence par Jésus, l'humilité parfaite, versets 1 à 11 du chapitre 2, Paul, versets 12 à 18, Timothée, versets 19 à 24, et pour finir, Épaphrodite, versets 25 à 30. Et donc, chacun de ces exemples démontre ce que je viens de dire, le principe suivant, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Troisième point, la spiritualité que nous trouvons dans le chapitre 3. Dans ce chapitre 3, Paul utilise à plusieurs reprises les mots « choses ». Et il relève que la plupart des gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Chapitre 3, verset 19. Mais par contre, le chrétien spirituel se préoccupe du royaume de Dieu. La course aux biens matériels prive les gens de la joie, et cela vaut pour nous aussi qui sommes chrétiens. Nous voulons posséder des choses, et finalement, ce sont les choses qui nous possèdent. Alors le seul moyen de vaincre et de vivre dans la joie, c'est de considérer les choses du point de vue de Dieu, du Seigneur. J'en arrive au quatrième. Nous avons le chapitre 4, c'est-à-dire c'est la sécurité. L'inquiétude atteint notre pensée et nos sentiments à propos des circonstances, à propos des gens et des choses. Si nous cultivons la résolution, l'humilité et la spiritualité, nous ne devrions pas être troublés par l'inquiétude ou les soucis. Notre être intérieur a besoin d'un garde pour les empêcher d'y entrer, d'y pénétrer. Et le verset 7 du chapitre 4 décrit cette parfaite sécurité, puisqu'il nous est dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix monte la garde pour nos cœurs et nos pensées. Ce chapitre 4 de Philippiens décrit les ressources spirituelles que le chrétien a en Christ. Premièrement, je viens de le dire, la paix de Dieu, chapitre 4, versets 1 à 9. La puissance de Dieu, versets 10 à 13. Et finalement, le soutien de Dieu, versets 14 à 23 du chapitre 4. Alors, ainsi, avec de telles ressources, pourquoi s'inquiéter? Nous avons la paix de Dieu, verset 7, pour nous garder. En plus de cela, le Dieu de paix est avec nous. Nous jouissons de la paix de Dieu quand nous prions, versets 6 et 7. Quand nous pensons, verset 8. Et quand nous vivons pour sa gloire, verset 9. Frères et sœurs, mes amis, c'est le secret de la victoire sur toutes nos inquiétudes et sur tous nos soucis. J'en arrive à la conclusion. Ce matin, par le moyen de la parole de Dieu, nous avons débusqué ces quatre voleurs de joie qui peuvent nous ravir justement la joie que nous avons en Christ, en principe. Et cette même parole nous a donné les quatre états d'esprit qui procurent justement la joie. Alors je rappelle ces quatre voleurs, les circonstances, les gens, les choses, les soucis. Et puis ces quatre états d'esprit qui procurent la joie. La résolution, être ferme en Jésus-Christ, l'humilité, la spiritualité et la sécurité. Alors, il est probable que l'un ou plusieurs voleurs ont pénétré dans notre cœur, et c'est le moment opportun pour le reconnaître et le confesser devant le Seigneur, et ainsi vous retrouverez la joie chrétienne. Je crois que c'est important. Dans le livre de Néhémie, vous connaissez tous cette parole, chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. » Alors, si ce matin j'avais une quelconque autorité, eh bien, je vous interdirais de quitter ce lieu dans la tristesse, l'inquiétude, les soucis, la crainte. Mais par contre, je vous laisserais partir avec la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il m'a été donné lorsque j'étais allé à Emmaüs, à l'école biblique, Ésaïe 55, verset 12. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Que la grâce et la paix soient avec chacun de nous, chacun de vous ce matin. Amen.